Alors, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Francesco Casetti, qu'on ne présente pas. On est toujours en cran en retard pour présenter Francesco parce qu'il est déjà connu de tout le monde. Donc, professeur à Yale actuellement, mais qui était professeur à Milan aussi, plus proche de nous, enfin, qui couvre un vaste parcours culturel en termes de carrière universitaire, mais aussi en termes de réflexion sur le cinéma. Alors, vous êtes nombreux ici à connaître plusieurs de ces travaux, notamment les travaux qui sont liés à, qui viennent de tous les rapports à la télévision, la sémiologie, de tout ce qui est la pensée sur la question du spectateur dans le livre des années 90 d'Henri Garlot. Vous avez évidemment lu les théories du cinéma de 1945 à 90. Vous avez repéré aussi l'Occhio del Novecento. En anglais, c'est Eye of the Century.
Ils sont des victimes.
Oui, ils ont été pris d'assaut par les livres de Francesco Casetti. Mais c'est aujourd'hui aussi une actualité très forte parce que Francesco Casetti vient de sortir un livre il y a quelques semaines. Peut-être.
J'ai fait de la pub.
Voilà, qui s'intitule The Lumière Galaxy, Seven Keywords for Cinema. Et qui, déjà dans le sens, Occhio del Novecento était déjà dans, cette perspective, enfin dans une perspective qui est très proche de nous en termes de dispositifs, qui va repenser alors, le cinéma, justement contre tous ces discours sur la mort du cinéma en termes de remédiation, de relocation, je prends le terme, comment le cinéma se disperse, comment le cinéma est à construire. En termes, toi tu n'utilises pas trop le dispositif, mais ça marche avec ce qu'on appelle nous dispositif. Donc ce que je vais faire, c'est vous laisser la parole et puis je te remercie d'être parmi nous.
Merci Maria, merci Benoît, merci Omar, et merci à tous, à vous tous. C'est beau, on rencontre des amis aussi, c'est une magnifique occasion. Je suis assez calme, mais j'aime la lutte, donc c'était une magnifique occasion pour moi. Arriver ici à parler du dispositif avec des amis qui ont écrit, bon, j'ai montré mon livre, mais je remontre ces livres qui ont été une sorte de Bible pour moi dans les derniers temps. Et donc, je veux parcourir un chapitre, pas littéralement, un chapitre de mon livre qui est le chapitre plus en discussion avec beaucoup d'entre vous. Et qui aborde la notion des dispositifs, en général, dispositifs du cinéma. Laissez-moi dire que je suis assez intéressé à deux choses au moment où le cinéma est né. Et donc, en général, je travaille sur les théories de cinéma des premiers temps. Et sur le moment où le cinéma, apparemment, il est en train de mourir. Et donc, je travaille sur les théories de la mort du cinéma. Et mon livre, c'est une réponse à cette idée de la mort du cinéma, une réponse assez polémique, je crois, par rapport en particulier au débat français, c'est de dire. D'un côté, l'idée que tout ce cinéma, et de l'autre, que le cinéma, c'est mort, sauf qu'il reste dans la salle. J'essaie de répondre d'une autre manière. Et bon, là, c'est une magnifique occasion pour moi d'essayer de les faire avec, dans cet endroit qui est bien connu pour plusieurs choses, mais pour le travail sur les dispositifs qui a lancé cette UGC de Lausanne comme une des places les plus réputées en ce moment pour les études et la théorie du cinéma. Et je pars d'un certain nombre d'images. Je parle de celui-là, qui est une image, c'est la pub de Xfinity. C'est un provider américain qui vous donne la possibilité de louer des films, mais en plus, pas seulement de les louer, mais de commencer à les regarder chez vous, dans votre téléviseur. Et après, si vous devez sortir, vous pouvez continuer à les regardez dans votre tablette ou dans votre smartphone, et vous pouvez revenir chez vous. Vous pouvez même passer d'une écran dans la maison à une autre. Donc, cette idée de déambuler avec les films qui vous accompagnent. Et en continuant avec Xfinity, ça c'est, si vous voulez, la home page où vous voyez, ça m'intéresse, c'est pas par hasard, les manières dont les éléments sont disposés dans la page, c'est pas par hasard. Donc d'abord Search TV and On Demand Movies, qui a ainsi dit en premium content, sports, kids, HD. Ça fait appel donc à des qualités, si vous voulez, esthétiques, HD, ou à des qualités thématiques, sport, ou en tradition, cinéma, movie. C'est quelque chose bon, dans lesquels est inclus, pas nécessairement une fiction, même un documentaire, mais donc, si vous voulez, étrange catégorie plus borghésienne, si vous voulez, d'un certain sens. Maintenant, ça m'intéresse. Le premier bouton, c'est Demand, Money, et le deuxième, c'est Premium, Film. La rélevance du cinéma aujourd'hui. Et je passe à un troisième. Watch thousands of Xfinity on demand TV shows, movies, anytime, anywhere. D'abord, ça m'intéresse encore la connexion entre TV et movies. Et au même moment, les movies sont une partie que je peux identifier d'une manière spécifique. Et de l'autre, anytime, anywhere. Cette idée que tu peux prendre n'importe quoi sur n'importe où ou n'importe quel dispositif, même ton cell phone, même sous Oculus Rift, qui est la grande, comme vous savez, la grande invention de l'année passée, et donc sur laquelle il y a un investissement de quelques billions. Il y a un mec qui a votre âge, qui a investi tout l'argent qu'il a gagné en réparant les machines. Il a acheté tant de vieux dispositifs pour commencer à les voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Il a construit ces trucs, droite, gauche, et il a collecté 3 billions. Des gens qui ont donné de l'argent. J'ai mis l'argent sur toi, pas sur un cheval, sur toi. C'est sûr, sûr. Et en effet, c'est une des choses, pas encore décollée, hein, une des choses. Mais là, voilà, c'est l'image que j'ai préférée. Hélas, on n'a pas cette cell phone dans lequel il y a inclus une salle cinéma. Donc c'est l'idée dont je veux parler, cette sorte d'overlapping entre les nouveaux médias, entre une idée d'avoir les cinémas comme un contenu spécifique qui ne se confond pas avec d'autres, anywhere, anytime, avec une continuité sur des dispositifs différents, et quand même du cinéma. On pourrait dire, et c'est la voie la plus facile, on pourrait dire, oh bien sûr, on n'est plus dans les cinémas. On n'est plus dans les cinémas parce qu'on a un spectateur mobile. Première image. On n'est plus dans les cinémas parce qu'il y a un texte fragmenté. On n'est plus dans les cinémas parce qu'on est dans une ambiance, un environment lacunaire. On n'a plus les dark. C'est white box is no more. Il n'est plus un dark salle noire. Ça serait facile de dire on n'est plus dans les cinémas hein, en adoptant la position de mes amis Raymond Bellour au Giacomo. Dans certains sens, c'est une position de bon sens. On n'est plus dans les cinémas. Mais pourquoi, dans les images que j'ai montrées, cette insistance sur movies, cinéma? Pourquoi cette résistance à disparaître de la part du cinéma? Ça m'intéresse. Pourquoi, posé d'une manière un peu stupide, pourquoi les cinémas ne veulent pas mourir? Dans la Bible, il y a pas mal de questions qui passent. Benoît, il propose par exemple une formule sur laquelle j'ai réfléchi pas mal du temps. Un film vu en vidéo est une facsimilé de l'original. L'idée, c'est une bonne idée, c'est l'idée que, bon, on n'est plus dans l'original. C'est une sorte de copie. Alors là, ma réponse est, ok, dans quel sens une statue romaine vue dans les musées, c'est un facsimilé de l'original dès que la statue était conçue, être vue dans une rue comme monument funéraire. Et toujours Benoît, comme ça vous comprenez, vous avez été aussi gentil de m'inviter, mais j'ai travaillé pas mal sur votre livre, donc c'est un moment pour moi de rendre hommage, mais aussi de dire oh mais hey folks,
c'est pour ça qu'on a
Et l'autre idée, c'est de Benoît, que j'aime beaucoup. Et je dois dire, Benoît, qui m'a perturbé. À un moment donné, j'ai dit, je suis dans la mauvaise voie dans mon livre. Une idée que j'aime beaucoup, c'est dire, ok, bon, quand on parle du cinéma et de la mort du cinéma, ou du cinéma après le cinéma, on dit les tablettes, on dit la télévision chez toi, on dit... Mais ce sont des machines différentes. Il faudrait faire, tu as raison, il faudrait faire une analyse spécifique de chacun de ces... Mais pourquoi, encore une fois, Xfinity me dit, non, écoute, tu peux avoir les mêmes choses chez toi, en voiture, sur le métro, etc. Il y a une continuité. Ça me perturbe cette idée que, côté de l'industrie, ils ont raison. Ils veulent vendre l'argent, ils veulent ton argent. Mais cette idée de continuité. Alors, la réponse sur laquelle je me suis orienté, même si vous voulez, n'est pas... même cette conférence m'a permis d'être plus clair et plus radical avec moi-même. D'abord, l'idée que les dispositifs, il y a différents dispositifs, les cinémas, l'ordinateur n'est pas mon portable. L'ordinateur n'est pas mon cell phone et mon cell phone n'est pas la salle obscure, ça c'est clair. Mais c'est vrai que les dispositifs, je n'aborde pas encore l'idée qu'est-ce que c'est un dispositif qui vient dans un instant, les dispositifs sont aussi des familles de dispositifs ou des dispositifs familles. Et si je regarde l'histoire du cinéma, donc encore une fois, je ne parle pas comme historien, dans un endroit où il y a des grands historiens, mais si je regarde un peu l'histoire du cinéma, je perçois bien sûr que peut-être les dispositifs, même aux origines, pas seulement parce que les machines de projection, ils étaient différents. Mais bien sûr, pourquoi ? Parce que, pour d'autres raisons, ils étaient des dispositifs différents et quand même ils étaient ramassés dans un dispositif famille. Encore une fois, Benoît, dans un texte que j'adore, il a montré la différence et au même moment, la similarité d'avoir une manivelle dans les autres, ou n'est, ou pas les voir. Comme ils changent, ils ne changent pas. Comme un zotrope horizontal et un zotrope vertical, ils sont différents, mais quand même, ils fonctionnent dans les mêmes, disons, circuits. Et plus radicalement, Marie et François Alvarez ont démontré que dans l'épistémologie, c'est ça qu'il appelle l'épistémologie du 19e, il y a des familles, des choses, et pas seulement des choses isolées. Et même l'idée de faire des archéologies des médias, ça veut dire faire d'histoire des familles. Donc ma première réponse, et ce n'est pas clair, on fait à l'américain, vous levez la main, disait Francesco, j'ai pas compris, écoute, tu n'es pas clair, c'est pas une question de langue, tu es complètement perdu, peut-être une question de jet lag. Bah. Première réponse, c'est pourquoi pas? Si on pense les dispositifs comme une famille de machines, et on pense au cinéma comme un dispositif famille, une série de dispositifs l'une côté l'autre, avec des pièces qui ne fonctionnent pas de la même manière, avec des positions du spectateur qui ne sont pas nécessairement les mêmes, avec des dispositifs mécaniques qui ne sont pas les mêmes, mais qui quand même ils relèvent d'une structure, d'un ensemble, d'un système de relations. Encore une fois, une idée que je partage profondément avec vous, qui est au fond la même. Je partirai d'ici pour revenir un peu à la question en général historiquement, à la question du dispositif. Encore une fois, dans la Bible, Omar a écrit un texte qui j'ai beaucoup apprécié, ce n'est pas mon appréciation qui importe, un texte qui essaye de révisionner historiquement la manière dont l'idée des dispositifs est née aux années 70, à travers une lecture que Baudry a fait du cinéma et à partir d'un vocabulaire qui était le vocabulaire de l'époque. J'ai dit Baudry, mais justement, tu inclus Audard aussi, même si la notion de dispositif n'est pas, ne joue pas les mêmes. Dispositif qui, pour Baudry, ça correspond à deux systèmes, appareils et dispositifs. En plus, il utilise des mots pour définir le premier, caméra, pellicule, projecteur, ou prise de vue, montage, projection. Si on regarde, au lieu de regarder les choses, on regarde les fonctions, et projecteur, écran, spectateur, salle obscure. Mais qui en tout cas nous restitue l'idée d'une machine compacte et bien réglée, compacte et bien réglée, les deux choses. Il y a une cohérence, tout se tient dans le système et tout se tient à travers un réglage interne. Et un réglage qui est un réglage psychique, basiquement. Sinon, dans la deuxième partie des Baudry, je ne sais pas si tu es d'accord, quand il passe du Lacan à Platon, c'est plus psychique, il est épistémologique ou, disons, anthropologique même, on peut dire même, si il aurait refusé les mots, mais en tout cas, aujourd'hui, si on les relit, on perçoit qu'il y a l'idée d'un élément anthropologique du base. C'est à partir de là qu'il s'est configuré, donc je reviens pas plus sur un sujet qu'on aura bien abordé, on a élaboré ce qu'on appelle l'apparatus theory, ce qui a provoqué la réaction de Noël Carroll et de Bordwell dans Post-Theory, qui ont rejeté justement l'apparatus theory, avec des noms avec Pierre, Thierry Poncel, qui est plutôt oublié maintenant, mais qui a écrit des choses absolument formidables, Raymond, Christian, Stephen, etc. À risque de perdre du temps, j'ouvre une parenthèse. J'ai cité Bordwell, qui est un bon ami. Mais... Alors, tu as cité mon livre, « Nous regarde l'autre ». J'ai perdu une minute. Alors, 89, je suis allé pour la première fois enseigner aux États-Unis. Et donc, il m'a invité, Iowa, il m'a invité à Madison. C'est arrivé, il a dit, bon, écoute Francesco, on m'a dit que tu n'es pas d'accord avec l'approche cognitive que j'ai faite. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai écrit un bouquin sur la théorie d'énonciation, je ne suis pas d'accord avec toi. Francesco, c'est pas parce que tu n'as pas lu. Alors, il y a deux livres que tu dois lire. 4 heures après, bon, tu as qu'un bon film. Écoute, j'ai plus doux, j'ai doublé. La raison, c'est ça. Il y a 2 autres livres qu'on peut te donner. 5 heures après, tu es d'accord, tu es converti. Non, je ne suis pas converti. J'ai des doutes. Pour ça. Non, on peut discuter. Bon, mais non, écoute, on prend un peu de distraction. Il m'a montré un film populaire américain, qui me vient en... Maintenant tu lis ces livres. Pour faire bref, j'ai passé 15 heures, j'étais crevé, c'est l'énergie. Ok, maintenant je suis convaincu, un scholar cognitive psychology. Il m'a regardé et m'a dit, c'est pas vrai. Bien sûr, c'est pas vrai. Mais la nourriture chez toi, c'est aussi horrible que j'ai besoin d'aller dans un endroit avoir du bon food et pas du junk food comme toi. Et donc, je suis, comme italien, je suis prêt à m'inscrire à n'importe quelle religion si tu me rapportes un restaurant. Donc, il m'a rapporté un restaurant. J'aurais dû faire la même chose quand il a écrit Post Theory, qui est le livre le plus bête que j'ai jamais lu. Parce que justement, ce qu'il a dans la tête, c'est qu'il faut être contre l'apparatus theory parce qu'elle est française, elle est une théorie française. Et donc, américain, revenez au nationalisme qui vous. Combien? Alors, ça a été un grand moment de théorisation. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'à l'intérieur de cette, même à l'intérieur de cette tradition, c'est possible de relever une contre-approche dans laquelle on peut mettre en crise, même si on lit Metz, qui apparemment c'est le plus cohérent, le plus obsédé de la cohérence qu'on puisse imaginer. Il y a des éléments qui sont accrochés l'un sur l'autre, pas pour nécessité, je ne veux pas, même pas dire par hasard, mais si on comprend par exemple les trois éléments, voyeurisme, scopophilie, etc., etc., il n'y a pas une ligne qui dit pourquoi ils sont trois, et pourquoi ils doivent être trois, et pourquoi ils sont ces trois-là, et quelles sont les relations entre l'une et l'autre, etc., etc. On peut faire une contre-lecture, même à l'intérieur de l'apparatus théorique, contre les grains, et commencer à penser à une convergence hasardeuse d'éléments disparates. Une combinaison provisoire est en transformation. Commencer à penser l'apparatus d'un cette manière, non comme une machine mortelle qui est définie une fois pour tous, mais comme un élément dont la contingence et l'insécurité jouent un rôle. Et c'est à partir de cette contre-lecture qu'on trouve dans les mêmes années toute une série, une panoplie des éléments dans lesquels il y a une résistance contre l'idée d'une machine infernale qui me rattrape et qui fonctionne de cette manière. Alors, j'ai cité, par exemple, Olle Stranton. C'est joli, l'idée que, donc, the film is not, is, they are parts, it's not machine. Or, on peut aller dans Rosalind Krauss, dans son texte, the filmic apparatus is aggregative, a matter of interlocking supports and layer conventions, sur lesquels elle base tous les raisonnements pour dire que le cinéma, c'est l'horizon des libertés pour les artistes, contre la théorie spécificité qui apparemment trappe les arts traditionnels. Eh bien, on peut même aller à l'idée, pas de l'apparatus theory en termes de cinéma, mais en général, du notion de dispositif. Gamben et son texte sur les dispositifs a été traduit en français,
oui.
Qui est célèbre. Moi, je ne trouve pas très bon, en tout cas, c'est célèbre. Dans lequel il insiste, je m'excuse, je n'avais pas la traduction française. A set of practices, bodies, knowledge, measures, institutions. This idea of set of complex of elements liés, interlocking, Krauss, but not nécessairement fermé sur soi-même. C'est dans cette logique que les quatre pages du texte de Gilles Deleuze, qu'est-ce que c'est un dispositif? Ils se sont révélés pour moi assez précieuses. Les tentatives de répondre dans une ligne de relecture foucaultienne, dans une philologie foucaultienne, sur l'idée d'un dispositif dans lequel l'ensemble n'est pas constructif, mais c'est plutôt, comme dirait Maria, relationnel. Lequel chacun élément n'est pas nécessairement ni cohérent, ni homogène, etc., etc. Vous lisez. Non. Dans lequel autre élément que je retrouve fortement dans la Bible que j'ai déjà citée. Avec les deux dimensions, la question de la visibilité, rendre visible quelque chose, et de l'énonciation. Donc, du sensible et du discursif, on peut dire. Dans lesquels il n'y a pas une cohérence, mais il y a des lignes de force, quand même. Les bons Américains, Gramscien, diront il y a de l'hégémonie, il y a des éléments hégémoniques qui constituent une ligne de force. Et dans lesquels un des éléments constitutifs, c'est qu'il appelle une ligne de subjectivation. Le dispositif produit un sujet, on le sait, je ne vais pas discuter, mais un sujet qui n'est pas nécessairement les produits du dispositif, mais c'est une ligne à l'intérieur d'une série de lignes. Et là, voilà la définition des dispositifs sur lesquels ces petits textes de Deleuze terminent. Les dispositifs ont donc pour composant les lignes de visibilité, d'énonciation, lignes de force, lignes de subjectivation, lignes de velure, des fissures, des fractures, qui toutes s'intercroisent et se mêlent, et dont les unes redonnent les autres, ou un souci d'autres à travers des variations ou même des mutations d'agencement. La notion d'agencement, vous savez, c'est une notion capitale dans Mille Plateaux, dans l'Antiédipe, qui est définie comme ce qui fait tenir ensemble des éléments très hétérogènes, un son, un color, un geste, une position, des natures et des artifices. Et ça qui me frappe, c'est que agencement a été traduit avec assemblage, traduit en américain avec assemblage. Ça, c'est le miracle du traducteur. Traduire un mot français avec un autre mot français. C'est un autre mot français. Et c'est un cas, comme dirait Benjamin, qui a écrit un texte sur le traducteur qui est mirable. Des cas dans lesquels les traducteurs expliquent, interprètent, poussent, font un pas en plus, quelque chose comme ça. C'est justement la notion d'assemblage qui me plaît et qui voudrait utiliser pour répondre à la question d'un dispositif, flexible, d'un dispositif famille, d'une famille de dispositifs dont les positions et les éléments sont permutables, etc., etc. Je vais rapide parce que j'ai d'abord parce que j'ai pris trop du temps, et deuxième parce qu'il y aura beaucoup d'heures sur lesquelles je retournerai vendredi et samedi sur le conseil. Comment définir un assemblage, un dispositif comme assemblage? Là, je suis un peu polémique vers Maria et Albera. Là où ils définissent les dispositifs basiquement comme, c'est bien, c'est astucieux, comme une machinerie entre un sujet et une représentation. Pour moi, peut-être il y a un peu plus des éléments dont il faut tenir compte. Et d'abord, il faut tenir compte de trois éléments, les discours, la représentation des images, quand je parle des discours, je parle d'une chambre discursive, dont les images sur l'écran sont une composante, des pratiques, des choses qui ont que l'institution, ce n'est pas le sujet, c'est l'institution qui réclame comme une certaine série de procédures. Alors, j'aurais pu l'appeler procédure plutôt que pratique pour les détacher d'un sujet, et des espaces. Là, samedi, je parlerai beaucoup. Les espaces et l'idée d'espace, encore une fois, dans Deleuze, l'idée de réterritorialisation qu'il y a dans Mille Plateaux et dans l'Antiédite, l'idée que les morceaux, les éléments morcelés des institutions se rassemblent dans un espace définitif. Après tout, on est dans un espace. Si on regarde les images que j'ai montrées, c'est pas anywhere, c'est toujours dans un espace. L'espace qui ramasse les éléments. L'espace comme moment d'atterrissement des éléments. Et sur l'autre côté, côté opposé, les besoins symboliques, anthropologiques, etc. Donc, je commencerai à définir un dispositif comme un élément qui a une série d'éléments qui a comme un assemblage d'éléments qui ont une caractérisation contingente et une série d'éléments, besoins qui sont plutôt anthropologiques. J'ai cité la territorialisation. Chacun des éléments, de cet élément, ils ne sont pas spécifiques du dispositif, de cet dispositif cinéma. Ils habitent autre part. Mais ils sont réterritorialisés dans un cadre qui trouve dans l'espace assez souvent une représentation. Quand vous allez au cinéma, vous faites des choses qui faites autrement. Mais vous, du moment que vous les faites au cinéma, ils deviennent pratiques cinématographiques. Je ne sais pas si c'est clair. Vous avez besoin, vous êtes voyeuriste pour parler avec Metz, pas seulement au cinéma. C'est bien ça. Mais quand vous êtes au cinéma, c'est un besoin qui fait marcher la machine, qui s'y retire et qui réalise dans cet espace. Et en plus, si vous voulez, l'élément, je n'ai pas le temps d'expliquer, les éléments, il se tient, on peut un peu voir, il se tient aussi parce que les besoins se territorialisent. Besoin d'y voir, c'est-à-dire qu'on réalise dans les cinémas, dans la salle, dans un espace, et l'espace devient pas seulement conteneur, devient l'espace d'une passion, par exemple, la passion d'y voir. Donc, ils sont pas seulement ensemble, chacun d'eux, il affecte les autres. Assez brièvement, parce que j'ai pas le temps. Dans les livres, j'ai même parlé un peu de l'idée qu'il y a une négociation entre cet élément. Ils ne sont pas ensemble. C'est comme les couples. Je t'aime, on fait une famille. Je ne suis pas les mêmes d'avant.
Oh, bien sûr.
On change. Dès que je rencontre mon partenaire, je change. C'est le même ça. Chacun d'eux, d'entre eux, ils changent, ils s'ajustent les uns sur les autres. Et l'autre élément, je m'excuse avec vous parce que je vais assez rapidement et assez abstrait. Il y a l'élément des sutures, ça, controversé. Il y a l'élément qui tient ensemble tous les éléments. Là, voilà, par exemple, Maria. J'ai commencé à travailler sur l'écran. L'écran, c'est un élément de suture. Et c'est un élément de suture, excusez-moi, technique, parce que c'est un élément de suture qui, dans les moments où ils tiennent ensemble, les quatre tiennent ensemble, représentation, espace, ils tiennent ensemble, spectateur, qui en semble besoin des voix, etc., etc., il disparaît. C'est un élément qui tient ensemble et qui, apparemment, ne joue pas un rôle, ou qui, apparemment, n'est pas présent. Donc, ça, c'est l'élément de la machine. L'élément qui tient ensemble tous, c'est celui qui, apparemment, n'existe pas, comme la structure, la place de l'absence, qui tient ensemble la chaîne des signifiants. Et c'est sur ça que ok, et un certain sens de régularité, bon, je saute ça. Et c'est sur ce sens-là que j'ajoute aussi à ce point-là une question des technologies et du sujet. Ça me prendrait un long discours, mais la technologie comme élément spécifique et les sujets comme les deux lieux dans lesquels le réglage de la machine, la négociation de la machine s'est fait d'une manière et les structurations de la machine s'est fait d'une manière les plus évidentes. Les deux éléments sensibles sont les deux chaînes qui tiennent ensemble les dispositifs. D'abord, la technologie et les sujets. Les sujets en particulier m'intéressent parce que les sujets n'est pas seulement assujettés à la machine, bien sûr. Il a raison dans un certain sens à Agamben quand il dit, écoutez, vous êtes dépendant de votre ordinateur, de votre numéro de votre smartphone. Vous êtes ça que votre ordinateur veut. C'est vrai. C'est magnifique d'être dans cette classe. Dans mes classes, tout le monde... Mes étudiants, je dois dire, chaque 15 minutes, parce que je suis italien, donc européen, donc relaxé, chaque 15 minutes, je m'interromps et dis, OK, folks, check your mail, because you can't stand without checking your mail. Il comprend, ça prend 3 minutes, regarde. Ici, on très bien. Il a raison, Agamben. Sauf le fait que lui, il a aussi un cell phone. Dans son livre, il parle mal de cell phone. Il a deux cell phones. J'ai demandé à Thomas. Mais alors, encore une fois, Deleuze, c'est astucieux. Il pose le sujet comme quelqu'un qui fonctionne à la limite. Donc quelqu'un qui est sur les points détenus et les points de rupture. Ça, c'est la formulation magnifique. Nous appartenons à ce dispositif. Il faut distinguer ce que nous sommes, que nous sommes, ne sommes déjà plus, et ce que nous sommes en train de devenir. Ça, c'est l'idée puissante du sujet entre les passés et les futurs. Donc, quelque chose qui contre l'idée que les sujets, au fond, l'idée de Latour, le sujet, c'est rien d'autre qu'une des actantes, une structure dans laquelle les non-sujets sont aussi importants. Et j'essayerai de montrer comment ça c'est vrai, comment toutes les pratiques grassroots changent les dispositifs précisément parce que les utilisateurs sont entre l'être, ça qu'ils ne sont plus, et l'être, ça qu'ils veulent être, entre les futurs et les présents. Toutes les pratiques, je montrerai pendant les leçons, par exemple les manières, tous les produits qu'on peut trouver en ligne qui brisent les règles, par exemple grammaticales, des produits cinématographiques dans une pilule de 3 minutes ou qui se moquent du... je ne sais pas si vous connaissez les grands travaux, par exemple, des remaniements des trailers. Vous pouvez trouver en ligne, si vous fake trailers, vous trouvez des choses magnifiques. Par exemple, Shining, qui est remonté, le trailer de Shining est remonté d'une manière qu'il devient, au lieu d'être un film horror, or, il devient un film de famille, finalement. Et à la fin, la famille est réunie. Toutes ces trucs. Justement, les sujets ont un rôle. L'utilisateur a un rôle créatif. Parce qu'il est cette ligne de brisure. Donc ça, c'est mon idée de cinéma comme assemblage. Et dans lequel je reviens à une autre idée qui est dans la Bible, l'idée du cinéma. C'est l'idée du cinéma qui colle, au fond, tout ça. Les véritables éléments de structure, du point de vue culturel, c'est ça que vous appelez l'idée clé. Des moments où une société reconnaisse le cinéma pour cinéma. C'est intéressant comme aujourd'hui le cinéma continue à être reconnu comme cinéma. Là, j'ai pris la notion clé, la cristallisation d'une définition précise d'un dispositif relative à sa qualité ou à sa fonction. Donc là, ça qui cristallise l'idée même du cinéma. Et ça me doit dire que cette idée d'assemblage, c'est pas une idée récente. Basiquement, c'est une idée qui, non seulement dans Krauss ou Hollis Frampton, etc. J'ai trouvé la manière la plus intéressante, c'était ces phrases des Valley Export. À propos du cinéma, du travail qui a été fait pendant les années 60 et 70 dans les ainsi dites expanded cinema. The film phenomenon is initially split up into its former components and then put back together again in a new way. On a brisé l'assemblage et on a remonté l'assemblage. The operation of the collective union, which is film collective union, such as screen, the cinema theater, the projector, light, and so on, are partially replaced by reality in order to install new signs of the real. This was the. Ça, c'était l'idée du cinéma expérimental des années 60. Replace, détruire l'assemblage, les remonter. En posant d'autres éléments, en forçant la machine, en posant la machine à un fonctionnement innaturel. C'est comme vous allez avec un panda, comme si vous étiez sur un Ferrari. Vous brisez votre voiture, mais c'est quand même c'est bien, je dirais. Poussez, à un certain moment, la machine, l'assemblage. Et c'est justement sur la grande expérimentation des années 60-70 que je veux terminer, sur Valley Export. Je suis, ça c'est la panic, genital panic, sur Van der Beek, Videodrome, and Anthony McCall, qui ont travaillé sur les dispositifs du cinéma d'une manière radicale dans les domaines de l'art, et qu'aujourd'hui il nous restitue dans un certain sens, le sens d'un assemblage, sa capacité d'être détruit, remonté, bricolé, parce que le cinéma continue à être. Merci.
Alors, Merci, c'est formidable parce que on entre dans mon dialogue et c'est tellement enrichissant de tu nous délocalises, relocalises et tu nous proposes un assemblage théorico épistémologique qui m'interpelle moi personnellement. J'y reviendrai, mais je vais d'abord donner la parole.
Les pauvres victimes.
Aux victimes, non, ils ont l'air tout à fait heureux.
C'est moi à faire une question. Alors, je ne sais pas combien de gens il verra au séminaire. Je suis vachement intéressé à voir des contraintes de comment vous voyez les cinémas d'aujourd'hui. Bien sûr, vous allez dans la salle. Et c'est joli. Et dans la salle, pour exemple, vous regardez votre smartphone. Vous prenez des morceaux de films. Vous téléphonez à vos amis. Vous faites tout ça.
Je me demande d'ailleurs si en États-Unis, il y a les mêmes pratiques qu'ici.
Absolument.
Tu penses?
J'ai envoyé un texte sur qui va être distribué sur une discussion des cette page sur ce que veut dire aller au cinéma aujourd'hui conduit par un groupe de film bars dans une homepage. Donc il amène et dans quel sens vous voyez des films si vous voyez des films parce que. Ou au contraire, il y a Netflix en Suisse ou non?
Oui.
Il y en a.
Oui, je peux pas donc, c'est grave.
Alors, c'est quelqu'un qui utilise Netflix ici? Personne?
Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Enfin, si on aime un peu les films, c'est limité. Enfin, ou alors c'est en français. Enfin, c'est...
Alors, qu'est-ce que veut dire voir un film chez vous, à la maison, acheté par Netflix? Qu'est-ce qui veut dire fixer des rendez-vous, par exemple? J'ai passé 2 mois de ma vie en regardant chaque jour un épisode de Breaking Bad. C'est de la cocaïne pure. C'est pas de la cocaïne, c'est de la amphétamine pure. Ça, je suis intéressé parce que, au fond, sérieux, hein, c'est pas. Au fond, la théorie de l'assemblage, ça fonctionne par rapport aux pratiques sociales. C'est pas. Donc, je suis arrivé à définir cet assemblage ou cette forme d'assemblage en lisant les contraintes des gens qui parlent de leur propre expérience. Et donc, ma question, c'est. Pour vous, s'il n'y a plus des salles dark room, des salles obscurées, il y a encore du cinéma ou non? C'est une vaste question. Ma femme, elle veut la lumière, elle ne veut pas des lumières pendant qu'on regarde chez nous. Et elle ne veut pas que je parle. Parce que comme j'ai écrit les livres dédiés à ma femme, parce qu'il est commencé il y a 7 ans. Je parlais avec elle. Elle dit, non, écoute, on regarde un film. Mais on est chez nous, à la maison, on peut parler. Non, on regarde un film.
Dispositif différent.
Oui, mais c'est plus fort le dispositif cinématographique que le dispositif famille. Alors, je voudrais des questions... dans lequel vous avouez comment vous voyez le film. Si vous le voyez, parce que peut-être, qui ne regarde pas de cinéma ici? Tout le monde regarde cinéma?
C'est complètement. Il y a une différence entre, enfin, justement, regarder des films qui peuvent être chez soi, avec, soit devant son ordinateur, sur son petit écran, et puis aller au cinéma qui est encore autre chose. Du coup, je ne sais pas si vous faites vraiment la différence dans votre question.
Pourquoi doit être autre chose aller au cinéma et regarder un film? Ça, je ne comprends pas.
Oui, pourtant, c'est vraiment. Selon moi, c'est une vraie différence, en tout cas pour nous, dans notre manière. Enfin, on organise le fait d'aller au cinéma, on prévoit.
Et quand vous regardez un film, Vous ne regardez pas un objet cinématographique?
Ah si, si, oui, oui. Bah,
vous
oui,
êtes dans les domaines du cinéma ou non?
Oui, 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 dans le domaine du cinéma, mais c'est tout un autre dispositif, du coup.
Ah ben, sûr.
Donc, tu te cognes à dispositif.
Mais la forme de l'expérience, bah, vous faites expérience d'un objet qui est quand même celle du cinéma.
Oui, l'objet qu'on regarde, c'est un film en tout cas. Après, est-ce que c'est...
Ça change si vous regardez un film ou vous jouez à un video game.
Ah oui, bah oui.
Même chez vous.
Ah oui.
Ok, donc voir un film chez vous, c'est plus proche d'aller au cinéma ou c'est plus proche de faire de jouer.
Non, je pense que c'est quand même plus proche que d'aller au cinéma, mais il y a quand même toujours c'est aller au cinéma, on va faire quelque chose, parce que si on regarde un film chez soi, on a notre ordinateur qu'on a de toute façon toujours avec nous. Selon comment le film est déjà dessus, on n'a même pas besoin de mettre un CD parce qu'on l'a téléchargé ou pour mille raisons. Enfin, il y a YouTube. Et puis, tandis que c'est quand même tout autre chose, selon moi, quand on décide d'aller au cinéma,
on a noté la date. Enfin, une case fictive, en effet, que j'ai fait. J'ai travaillé avec un groupe historique d'ethnographie, donc on a travaillé avec des gens qui regardaient un film chez eux. N'allez pas au cinéma. Alors, pour regarder un film, vous êtes en train de regarder un film. Regardez un film. Comment appelez-vous?
Claire.
Non, je regarde un film.
Oui, je regarde un film.
Alors c'est plus proche d'être en salle qu'être dans une à l'université. Si vous regardez un film chez vous ou à l'université, des moments que vous regardez un film, quand même vous faites quelque chose dans lequel des éléments d'aller au cinéma sont rapportés dans cette situation. C'est vrai ou non?
Oui, tout à fait. La focalisation,
J'appelais ça dans les livres, mais j'ai sauté ça, des stratégies de réparation. Les gens font des stratégies de réparation. Quand ils regardent un film, au lieu d'aller au cinéma, ils font des stratégies de réparation pour faire en manière qu'on s'approche le plus possible. Si la machine n'est pas une machine parfaite comme celui-là, ils font... C'est comme vous, que vous avez une Panda, mais vous voulez avoir une Ferrari, alors vous allez dans une... Comment ça s'appelle?
C'est mécanicien.
Un mécanicien. Et la Panda est un peu plus rapide, elle fait... Donc vous faites des stratégies de réparation. Donc vous, en effet, c'est vrai qu'il y a une différence entre voir un film et aller au cinéma, mais voir un film... s'approche de plus en plus à aller au cinéma, et même Netflix et les autres, il te dit, écoute, reste chez toi, mais chez toi, il est comme si tu étais dans la salle.
Je pense que la différence pour moi, en tout cas,
plus fort parce que...
La différence pour moi, c'est que l'action d'aller au cinéma, elle est différente de voir un film chez soi, au niveau de la structure, au niveau de l'idée du cinéma. Il y a une idée nostalgique du cinéma. Il y a quelque chose de faire quelque chose qui n'est pas habituel.
Ok, ça c'est intéressant. Ça c'est excusez-moi, mais c'est la thèse de Thomas Elsass. Le cinéma aujourd'hui est dominé par une esthétique de l'obsolescence. On va au cinéma comme on... J'ai fait un petit morceau de voix dans cette ville que je ne connaissais pas. Et donc, à un moment donné, il y avait la glace. La glace n'était pas vendue dans un magasin, c'était vendue dans une...
Un chariot,
comme si on était à Venise. La glace, c'est une dans le côté d'esthétique de l'obsolescence. glace, ça va mourir, mais c'est plaisir d'avoir de la glace dans un chariot. On paye pour ça. Mais si le cinéma, si aller au cinéma, ça fait partie de l'esthétique de l'obsolescence, quel est le côté, avancé, le côté non-obsolescence, le côté non-nostalgique?
C'est le côté de l'offre.
Alors, le côté non-nostalgique, c'est que je regarde le cinéma comme je veux. Je regarde un morceau, je laisse tomber, c'est comme ça. C'est là la partie moderne, avancée de l'expérience.
La partie moderne, c'est toutes les choses qui sont rajoutées. C'est la 3D, c'est le Dolby 7.0, c'est tout ce qui est rajouté au cinéma actuel.
Ce serait l'intensité perceptive. C'est la force.
C'est toujours ça, c'est la plus de force. Plus chez nous.
Oui. Bazin. Moderne, au lieu de dire que la ligne d'évolution du cinéma était basée sur le réalisme, on pourrait dire, bon, écoute, le cinéma, du début, a commencé à ajouter des éléments d'excitation. Donc,
là, je ne crois pas qu'il y ait vraiment une rupture entre le cinéma aujourd'hui et le cinéma pour moi et pour vous.
Non, je suis d'accord, c'est la thèse de mon livre. D'accord. Mais ça qui me frappe de votre discours, c'est l'idée qu'aller au cinéma, c'est de la nostalgie. Oui, c'est de la nostalgie, mais quand même. Vous saviez que aujourd'hui, j'hésitais un peu et après j'ai coupé ces pages. La position plus forte d'Hollywood, ça a été exprimé par Spielberg il y a 3 ans. Il a dit, écoutez, il y a 2 cinémas. Et donc, Claire, en un certain sens, a raison. L'une qui est, on peut regarder seulement dans la salle, et on ne peut pas regarder ailleurs. Et pour lesquels, il faut penser qu'on ne paye pas 12 francs. Combien c'est le billet? 14? Combien? 18. On ne paye pas 18, qui est un prix de peu. On paye 300 francs. Parce que si tu payes 300 francs, si tu payes 1000 francs pour aller à Métropolitain, pourquoi pas tu pourrais payer 300 francs pour voir un film? 300 francs pour $300 pour aller dans la salle. Autrement, il y a l'autre cinéma. Tu peux regarder chez toi et qui coûte moins cher. Et tu peux regarder. Ça que tu peux regarder seulement dans la salle en payant $300. Et là, on n'est plus dans la nostalgie, c'est dans une autre logique du marché, dans laquelle tu payes en plus pour avoir cet élément Dolby, etc., qui ne peut pas être repris dans une autre. Ok? Donc, il y a continuité, mais dans ce sens-là, n'est plus nostalgie. Il y a aussi un côté avancé. Un côté des new marketing qui s'ajoute sur ces côtés-là. Il y avait une question là.
Je trouvais aussi intéressant en fait, que quand on voit au cinéma, le film qu'on va voir n'est pas encore. Personnellement, je ne sais pas, j'arrive pas à télécharger, du coup, je n'arrive pas à voir le film avant tout le monde. Et du coup, il y a aussi cette espèce de rareté de l'objet du film qu'on peut voir une seule fois.
Non, je n'ai pas compris.
La rareté du film qu'on voit une fois.
Les bons Benjamin diraient, oh merde, j'ai écrit tout ça que j'ai écrit, après, il y a des gens qui disent ça. Dans l'époque de la révolution technologique, il y a quelqu'un qui dit la réalité de l'objet, l'aura, c'est quelque chose qui importe, qui compte, etc. Vous avez raison, un des éléments qui n'était pas constitutif du cinéma aux origines. dont l'élément surprise, je crois, était très fort, mais pas auratique. Et maintenant, il devient auratique. Ça explique pourquoi il y a des revues de cinéma qui parlent des films que personne n'a vu. Ocean Chain, par exemple. Je ne suis même pas sûr qu'il existe. Je crois qu'il y a des metteurs en scène chinois qui n'existent pas, qui ont été créés par des groupes de film fans dont ils ont écrit dans des revues pour déterminer sa réalité. J'ai vu quelque chose que personne ne peut voir. Oui, c'est vrai, ça c'est un élément des différences entre les deux. Mais encore une fois, c'est un élément qui ne pertient pas au cinéma, qui n'est pas génétiquement, si je peux dire, dans l'histoire du cinéma. Parce que ce n'est pas la réalité, vas-y.
Moi j'ai une question justement par rapport à ce qui appartient à la génétique du cinéma. C'est d'abord un spectacle collectif. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on en fait quand on visionne tout seul un film sur son ordinateur ou cette dimension? Mm-hmm.
Ma question est, vous regardez les films toutes seules? Même quand vous les regardez seules, vous êtes seule?
En général je suis seule. Et surtout je n'en parle pas après, comme c'est le cas quand je sors du cinéma. Et que je parle du film avec des amis, par exemple.
Je donnerais un peu d'adresse dans Internet, dans lequel il y a des gens qui s'organisent à voir des films, tous ensemble, les mêmes jours, les mêmes films, la même heure, mais distants. Et ils se passent, ils s'envoient l'un avec l'autre. Texting, l'autre, c'est une autre manière, c'est un élément des stratégies, de ça que j'ai appelé les stratégies de réparation. Donc, des éléments, j'ai trouvé des exemples magnifiques dans mon livre.
Il y a quelque chose qui est frappe dans la pratique, parce que là, c'est formidable, parce que tout le monde est saisi à la parole. Je me demandais s'il n'y avait pas aussi dans ta méthode, par rapport à ce qu'on fait ici, une dimension hyper sociologique. C'est-à-dire qu'on voit bien, comme tu pensais, c'est presque aussi un moment de création maintenant, quand tu es devant des étudiants, etc., en cherchant la question, les différentes pratiques, etc. Et les exemples que tu nous as montrés vont dans le sens aussi. Évidemment, la réputation, c'est dans la théorie du cinéma. Mais est-ce qu'il
n'y
a pas aussi une dimension sociologique dans ta démarche?
Écoute, ça c'est une très bonne question. Merci. Sur laquelle je suis assez sensible. Je pense, en général, j'ai un grand ami à Yale, Jeff Alexander, il est un sociologue, mon meilleur ami. Mais je pense assez souvent que les sociologues ne comprennent pas la réalité qu'ils étudient, en général. Et donc, j'ai l'intention de la comprendre un peu mieux. Et pourquoi je la comprends pas mieux? Parce que je ne veux pas catégoriser la réalité. Si tu dis là ma méthode, c'est les mêmes sur lesquelles je m'engage quand je lis des choses des théories cinéma de 1907-1908. J'ai fait l'ethnographe plutôt que le sociologue. Ouais. J'essaie de comprendre quelles sont les catégories mentales que des gens ont. Donc j'ai fait un travail, j'ai la prétention de faire un travail qui contient. J'essaie de comprendre les catégories qui sont impliquées par ce type de discours. Quelles sont les catégories? Alors là, tu vois, ce sont. Je n'ai pas la prétention. Mon définition des dispositifs, c'est la chose à laquelle je suis. On peut changer, si vous voulez. Je m'en fous. Vous voulez mettre un autre élément? Je m'en fous. Ça qui m'intéresse, c'est la manière dont, dans la visée sociale, pas parce que je suis un sociologue, pas parce que je suis un théoricien du cinéma, dans l'expérience du cinéma, qui est le mot que j'ai mis au début de mon livre, dans l'expérience cinéma, les gens reconnaissent ça comme expérience. Et ça a été suffisant. 10 minutes, je ne suis pas modeste, 10 minutes de discussion étaient formidables. vous avez dit des choses qui sont vachement intéressantes. Parce que vous avez catégorisé, beaucoup plus que les tentatives de faire un pentagramme, un assemblage pentagrammatique. Il y a cinq, bon, je ne sais pas combien des éléments. Non, c'est six, ils sont six. Bon, je m'en fous, six, sept. On peut ça, ça compte. C'est le côté italien. On trouve une solution. Mais la chose non italienne, c'est que un bon théoricien ne part pas comme un sociologue des discours qui sont intransparents des pratiques, mais des discours comme, on dirait Foucault, comme expression d'une épistème.
Voilà. C'est là qu'on se rejoint. Je continue juste avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, parce que là, il y a quelque chose qui me paraît tellement important dans le rapport entre nous, ta manière de procéder et la nôtre, qui est cette... Alors, on se rejoint vraiment dans cette approche italienne, l'idée de la famille, on pourrait discuter, c'est très intéressant en termes de schème. Pour nous, c'est de la famille, c'est le schème, quelque part. Je trouve très intéressant cette idée de catégorisation ou non-catégorisation, parce que nous, on parle d'assemblage. Tu disais, vous êtes spectateur, machinerie et représentation, ils connaissent déjà un peu ça. Pour la plupart, pour certains en tout cas. Et puis, toi, tu nous proposes, à partir de la lecture de Leuzienne, et c'est intéressant que ça vienne de là, quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et quelque part, nous, on est dans une approche un peu différenciée. On a l'approche épistémologique foucaldienne, on est d'accord, et puis on modélise autrement. Donc on prend des... Parce que nous, mais on a les mêmes données, c'est-à-dire que nous, on aura aussi pratique, discours, etc., etc., et toi aussi, et on arrive à se rejoindre, mais on part d'autre chose, donc d'un autre assemblage. Et cette idée qu'on a des assemblages différents théoriques de base. Nous, on a une grille d'analyse qui est spectateur, trois éléments, etc., et toi, tu as besoin, tout ce que tu nous as déployé à partir de... Et je me disais, pour la question, qu'est-ce que le cinéma finalement ? Nous, on ne va pas dire que c'est expandé, je pense que c'est déjà une notion qui est déjà connotée, etc. Mais on va dire que le cinéma, c'est des dispositifs de vision, et ça s'élargit comme ça, et il n'y a plus que des cinémas depuis le début, etc. etc.
Depuis le début,
bien. Depuis le début, et si début, il y a, parce que, voilà, ça se...
D'accord.
Et puis absolument. Toi, et donc, mais on part d'une grille qui est certainement très catégorisante par rapport à tes exigences d'ouverture. C'est-à-dire qu'on part avec trois éléments. On a une grille de lecture analytique, spectateur, représentation, etc. Puis après, on va... ce que je vois que ce que tu fais, toi, c'est que tu as quelque chose qui est très ouvert, et puis que ça se ressaisit à un moment. Alors ma question, laisse-moi finir la question. À quel moment tu ressaisis le cinéma? Parce que tu nous dis, il y a les besoins, etc., etc. Donc tu pars dans un...
L'idée du cinéma, c'est l'idée sociale du cinéma.
Voilà, est-ce que c'est movies? Est-ce que tout d'un coup, parce que ça apparaît souvent dans les questions, mais est-ce que c'est movies qui est le fil conducteur? Parce qu'à un moment donné, quand
mais
tu pars de cinéma...
Je dirais, peut-être je dis Marc, mais avec Claire, il y a une échelle des situations dans lesquelles quand même, dans cet côté-là, qui est apparemment distant, il y a un lien avec l'autre côté que je reconnais complètement comme cinéma. Donc, il y a une échelle des situations qui se tient par rapport à une idée de cinéma qui est reconnue et endorsed par une société. Mais sur la question ouverte, si j'ai compris, la majorité de vous êtes étudiants. Alors, là voilà, et après on termine.
Il y a peut-être d'autres qui veulent être victimes. Attends.
Alors, il y a un principe que je recommande à mes étudiants à Yale, que j'ai appris quand j'étais jeune par un copain. C'est un moment donné où j'étais en train de devenir fou pour trouver la formule qui met tout ensemble ça que j'étais en train de penser. Donc c'était mon époque grimazienne. Comment faire un carré sémiotique de cette chose-là? Lui, il m'a regardé et il m'a dit, Francesco, commence à faire la liste de la spesa, comment on peut la traduire? La liste
des commissions.
La liste des commissions.
Les courses.
Là, voilà, c'est une bonne indication. Faites la liste des commissions. Faites la liste des choses qui vous intéressent, qui vous trouvez. Et après, pensez un peu. Je l'ai fait quand j'étais jeune, quand j'étais votre âge. J'ai vécu dans un appartement, bon, j'avais pas d'argent, donc il n'y a rien sur les murs. Alors, j'ai mis des crans, feuilles des cartes, et j'ai commencé à faire la liste des commissions. Et après, prendre les éléments, provoquer, aller regrouper, à voir si ce sont toutes les. Ils ont un art des familles, on met ça, etc. Là, ça que tu appelles flexibilité ou ouverture, c'est un travail dans lequel les éléments que je rencontre, qui m'interpellent, qui je trouve, qui me frappent, qui me. Les drôles. J'ai cité dans les livres, la plus drôle chose que j'ai rencontrée, c'est la description d'un mec qui dit, bon, qu'est-ce que c'est au fond le cinéma? Pour moi, l'expérience cinéma, ça a été, après tout, et ça a été la meilleure sens des livres de cinéma, j'ai vu un film kung-fu doublé en arabe sur un bus en Égypte. Et les gens sur les bus faisaient comme ça, comme les kung-fu, etc. Ça a été aussi excitant que j'ai jamais vécu le cinéma comme ça. J'ai trouvé ça formidable. Et je l'ai mis à côté d'un morceau de Blaise Cendars, 1921, qui décrit le cinéma dans la même manière. Pas kung-fu, mais... Alors, c'est ça le travail du théoricien, tu vois. C'est pas le travail dans ma tête, comment je peux définir le cinéma. Mais...
Non, pour certains, oui, mais pas pour toi.
Non, écoute, c'est ça. C'est commencer à comprendre les sens anthropologiques du cinéma, etc. Et l'assemblage, c'est ça. C'est une tentative de donner une bonne réponse. Bon, je sais pas. En question. La machine n'est plus la même, et quand même, c'est la même. Yeah. Bonne question. Qui est très près à la question? Vous êtes jeune, mais on s'est rencontrés il y a 5 ans. Nous ne sommes plus les mêmes qu'avant. Mais moi, je t'aime encore. Ça, c'est mon rapport au cinéma. Et ça, c'est les rapports pour lesquels. Et c'est, au fond, la raison pour laquelle j'ai dit il faut accepter les changements et d'étudier les changements, non comme transformation, mais comme permanence différente du même. Ah, voilà. Je suis crevé, on se voit vendredi et samedi.
Merci, Francesca.